place. D'ailleurs, ceux qui découvrent ce cycle pourraient-ils lever simplement la main? Très bien, bienvenue. Alors, à votre attention et à ceux qui auraient peut-être un peu la mémoire courte, mais que je remercie donc d'être venu malgré le beau temps et malgré peut-être des marches dans les rues de Poitiers pour une cause très noble, mais dont on ne parlera pas ce soir parce que ça mériterait tout un cycle. Voilà, je vois. Voilà. Alors, je rappelle simplement que ce cycle qui a débuté voici quelques mois a vocation à se pencher sur les nouveaux visages, les nouvelles manifestations des inégalités et la manière dont les villes affrontent ces nouvelles formes d'inégalités. Nous avons commencé il y a quelques mois, je vous invite à vous reporter sur le programme si vous l'avez bien conservé, nous avons commencé par une intervention de Denis Clerc qui non seulement nous a sensibilisés au problème posé par l'émergence de ce qu'il est convenu d'appeler les travailleurs pauvres, mais il nous a aussi sensibilisé au fait que derrière la notion d'inégalité, il y avait des enjeux méthodologiques et qu'il était important de les garder en tête pour savoir justement dans quelle mesure il y avait un creusement des inégalités ou pas en France. Nous avons poursuivi avec Claudine Athias Donfus, qui nous a expliqué dans quelle mesure le contexte actuel, le contexte de crise économique, sociale, financière, pouvait remettre en cause ces solidarités intergénérationnelles, c'est-à-dire au sein des familles, entre les enfants, les parents, leurs enfants et les grands-parents, voire au-delà, quand la famille compte plus de trois générations. Elle nous a expliqué dans quelle mesure le contexte remettait en cause ces formes de solidarité qui aident certains ménages, certaines personnes à faire face à des difficultés ou des situations de précarité. Ce que j'ai retenu d'important, et je m'en tiendrai là pour cette intervention, c'est que les solidarités au sein des ménages ne peuvent absolument pas se substituer aux solidarités mises en place par l'État-providence. Les unes sont liées aux autres et un retrait de l'État-providence signifierait à terme une remise en cause de toutes ces formes de solidarité monétaire qui se jouent au sein des ménages. Nous poursuivrons comment à la rentrée prochaine avec Lucie Mététal qui nous expliquera comment des ménages, parce que situés en zone périurbaine, habitant dans des pavillons construits avant les premières lois réglementant la consommation d'énergie, eh bien, sont confrontés à une précarité énergétique et comment ils essayent d'arbitrer entre le surcoût de leur facture énergétique et aussi le surcoût de leur facture, si je peux dire, transport, parce que qui est élevé puisqu'ils vivent dans des zones périurbaines et donc dépendants, tributaires de la voiture. Nous terminerons le cycle par avec Gérard Salem, qui est un géographe qui enseigne actuellement en Afrique, j'ai un doute sur le pays tout d'un coup, et qui reviendra peut-être pas spécialement, mais qui mettra à profit un séjour à Paris pour descendre à Poitiers et nous expliquer, nous décrire les nouvelles formes d'inégalité face à la santé, selon son milieu social d'appartenance, mais aussi, bonsoir madame, voilà, c'est ce qu'on appelle une entrée discrète. Bon, je devrais pas arrêter de me faire. Oui, les inégalités face à la santé, selon le milieu social d'appartenance, mais aussi selon le lieu d'appartenance. Deux ouvriers peuvent connaître des inégalités face à la santé selon le territoire où ils habitent. Mais ce soir, alors nous allons explorer avec l'intervenant de ce soir les formes d'inégalité face aux mobilités. Alors, qu'est-ce que les mobilités? C'est sans doute des questions de transport, mais pas seulement, c'est toute une série de compétences. C'est la possibilité d'accéder à des lieux, comment et avec quels moyens. C'est ce que va nous expliquer Éric Le Breton, sociologue, et qui, depuis plusieurs années, travaille sur ce thème, et notamment les risques d'exclusion liés aux inégales capacités d'accès aux moyens de transport ou à l'inégale maîtrise des compétences, parce que la mobilité, c'est aussi des compétences. Je n'en dis pas plus, si ce n'est pour rappeler quand même que ce cycle a été créé à l'initiative du Conseil de développement responsable, présidé par Jam Renaud, ici présent, avec l'aide précieuse de Virginie Auffroy, également présente, le soutien de l'espace Mendès France, incarné par Anne Bonnefoy, et je tiens vraiment à les remercier tous pour la manière dont ils accompagnent la préparation de ce cycle. Voilà, trêve de présentation, la parole à Éric Le Breton pour une intervention de 45 minutes, d'une cinquantaine de minutes, pour nous faire sentir ces nouvelles formes d'inégalité face aux mobilités. Merci par avance.
Bien, bonsoir. Merci aux organisateurs de leur invitation. Merci à vous d'être ici. Je suis Éric Le Breton, je suis maître de conférence au département de sociologie de l'université de Rennes 2. Je suis par ailleurs chercheur dans un laboratoire qui rassemble des géographes sociaux et des sociologues. Et pour terminer, très rapide présentation, l'essentiel des travaux dont je vais très rapidement parler ce soir, je les ai menés dans une autre institution qui s'appelle l'Institut pour la ville en mouvement, qui est un institut de recherche action privée, quelque chose de tout à fait nouveau en France, qui a été fondé il y a maintenant 10 ans à l'initiative de PSA Peugeot Citroën, un constructeur de voitures, donc vraiment quelque chose d'un peu mystérieux, hein, comme ça. Je pourrais en dire un petit peu plus après, je n'en dis pas plus. Je rentre tout de suite dans mon propos, 3 quarts d'heure, pas plus, pour que nous ayons le temps de discuter et d'échanger ensuite. Le titre de cette intervention est « Être ou ne pas être mobile ». Dans la société d'aujourd'hui. C'est Sylvain, je crois, qui l'a mis au point. Il me convient tout à fait. Cet intitulé, ce titre, il renvoie à l'hypothèse selon laquelle nous serions entrés dans une société mobile. C'est-à-dire que nous serions dans une société aujourd'hui dont la caractéristique centrale serait la mobilité de ses membres. Les biens, les informations, les personnes passent leur temps à se déplacer de plus en plus loin, de plus en plus fréquemment, et à travers Internet, par exemple, les migrations, les déplacements domicile-travail, ou encore le tourisme, voilà des phénomènes qui sont très différents les uns des autres, mais très proches aussi par au moins un aspect, eh bien, nous serions entrés dans une société où les déplacements, la mobilité, le mouvement seraient devenus le caractère distinctif du fonctionnement de la société. À partir de là, on peut un petit peu poursuivre l'hypothèse en disant que nous aurions changé de type de société par rapport à la société du 19e siècle qui va jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Une société qui était régie globalement par le travail. Aujourd'hui, nous serions, c'est une question, c'est une hypothèse, entrés dans une société régie par la mobilité et par les rapports au territoire. C'est-à-dire une société dans laquelle les appartenances, les identités individuelles et collectives, une société dans laquelle le mode de hiérarchisation des groupes sociaux les uns par rapport aux autres, dans laquelle les enjeux politiques principaux renverraient tous à des questions de mobilité. Pour terminer cette très brève introduction, nous serions donc passés d'une société industrielle à une société dispersée. Je n'invente rien. De très nombreuses personnes aujourd'hui sont assez d'accord avec ce discours. Par exemple, l'anthropologue indien Appadurai, c'est son nom, qui a réalisé un livre sur les conséquences culturelles de la globalisation et qui établit ce fait à l'échelle mondiale. Le sociologue anglais John Urey va également dans ce sens. Nous sommes dans une société des mobilités. Mais en France, dès les années 60, des sociologues, des historiens ont eu cette intuition. Henri Lefebvre, par exemple, l'a très clairement formulé dès 1965 en disant « Nous ne sommes plus dans une société de la question sociale, c'est-à-dire de la question du travail, nous sommes dans une société régie par la question urbaine, par les territoires. » Michel Foucault, en 1967, Michel Foucault a beaucoup travaillé sur les questions sur le rapport à l'espace. Il se trouve que je le lis actuellement. Voilà pourquoi je vais me permettre de faire cette petite citation que je trouve très parlante. Michel Foucault, en 67, a écrit « La grande hantise qui a obsédé le XIXe siècle a été l'histoire. L'époque actuelle serait plutôt l'époque de l'espace. Nous sommes à l'époque de la juxtaposition, à l'époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. » J'aime bien cette citation parce que je retrouve le mot que j'utilise, « dispersé ». Bon, voilà l'introduction. Je ne vais évidemment pas traiter ce cadre extrêmement large. Je vais me limiter à deux questions beaucoup plus modestes. D'abord, je voudrais définir ce qu'est la mobilité. Et puis ensuite, je voudrais donner quelques éclairages sur la manière dont elle réorganise notre société française d'aujourd'hui. Premier point, la mobilité comme langue des sociétés dispersées. Qu'est-ce que c'est que la mobilité ? Bien sûr, la mobilité, c'est la capacité pour un individu d'aller d'un point à un autre. Et quand on dit ça, eh bien, cela nous ramène d'emblée aux moyens du déplacement, la voiture, le train, le transport collectif, l'avion. Ça nous renvoie aussi aux infrastructures de déplacement, les gares, les aéroports, les routes, les autoroutes, les ports, et puis ça nous renvoie d'une manière encore plus globale au monde de la technique, le GPS, la géolocalisation, l'aménagement urbain, l'aménagement du territoire, etc. Je trouve pour ma part cette définition extrêmement restrictive. Bien au-delà des moyens de la mobilité, je trouve qu'une bonne image pour définir ce qu'est aujourd'hui la mobilité est de dire que c'est comme une langue. La mobilité est la langue particulière de nos sociétés dispersées. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La langue, elle a deux vocations. Elle permet d'abord d'échanger des informations et de dire des choses. Donc là, c'est la vocation instrumentale, opérationnelle de la langue. Mais c'est aussi ce à travers quoi, dès le plus jeune âge, un individu construit, élabore la représentation qu'il a de lui-même et du monde qui l'entoure. On ne peut pas faire ça si on n'a pas la langue, puisque c'est la langue qui nous apporte les catégories culturelles que nous intégrons et qui découpe le monde autour de nous. La mobilité, elle joue exactement le même rôle sur ces deux plans. La mobilité, c'est d'abord, je l'ai dit, ce qui permet à un individu d'aller vers différents lieux, vers des ressources, vers d'autres individus, à partir de là, de multiplier les opportunités de construction et d'épanouissement de son identité sociale. Mais c'est aussi ce à partir de quoi nous élaborons notre espace personnel. L'espace personnel, c'est une notion qui nous vient de la psychologie de l'environnement, par exemple Kevin Lynch aux États-Unis dans les années 60. Et cette notion, elle désigne une idée très simple et vraiment fondamentale, à savoir que l'espace que nous occupons mentalement dépasse très largement les limites de notre corps. Nous pouvons par exemple avoir le sentiment que notre quartier, notre ville, le village de notre enfance, le village dans lequel nous passons des vacances font partie intégrante de nous-mêmes, parce que ce sont des espaces avec lesquels nous éprouvons une très grande familiarité, parce que ce sont des espaces dont nous connaissons très très bien les règles de fonctionnement, et puis parce que, d'une manière plus générale, nous nous sentons à l'aise pour y faire tout ce que nous avons envie de faire. Donc cette notion d'espace personnel, elle renvoie au sentiment d'appropriation très très fort, très incorporé, très intériorisé des espaces. Elle renvoie à l'appropriation, à l'incorporation des espaces. Certaines personnes ont un espace personnel considérablement étendu. Des gens qui, pendant des années, ont pris le train, l'avion, qui très très régulièrement découvrent de nouvelles villes, de nouveaux pays, de nouveaux territoires, finissent par se sentir chez elles absolument partout. D'autres individus ont un espace personnel extraordinairement restreint. Il y a des personnes qui se sentent chez elles dans leur quartier, d'autres qui se sentent chez elles à peine dans leur appartement, et d'autres encore qui sont chez elles, dans leur cuisine ou dans leur chambre. Et pas plus. Voilà les toutes petites portions de la planète Terre sur lesquelles ces personnes se sont existées à peu près facilement. Ailleurs, elles sortent de leur espace personnel et ça devient très très compliqué. Donc priver de la langue, c'est priver la personne de la communication avec autrui et en même temps des catégories mentales qui permettent de construire le monde. De la même manière, la privation de la mobilité condamne les personnes à n'avoir qu'une identité sociale plus ou moins réduite, plus ou moins tronquée, et en même temps, priver de la mobilité, c'est les priver de la possibilité de se projeter et de se construire en tant qu'individu dans l'espace. On est bien au-delà des moyens de la mobilité. Si la mobilité est une langue, elle s'apprend comme telle, dès les toutes premières années, et peut-être même avant, hein, en matière d'apprentissage linguistique. Les histoires de mémoire prénatale sont bien identifiées aujourd'hui. Pour la mobilité, je ne sais pas. En tout cas, ça s'apprend dès les premières années et au sein de la famille, qui est l'institution de socialisation primaire. Pour voir un petit peu ce qui se passe, et notamment le fait, là je rejoins la question des inégalités, eh bien, on apprend des langues très différentes sur le plan de la mobilité. Et on va comparer très rapidement, d'une manière très simple, deux jeunes garçons. Le premier est socialisé dans une famille de cadres, par exemple, et puis le second est socialisé dans une famille dans laquelle il y a beaucoup moins de ressources diverses et variées. Le petit cadre, dès les toutes premières années de sa vie, il va prendre l'habitude de la voiture, sans restriction, sans angoisse, comme quelque chose de tout à fait banalisé. La voiture fait partie de son espace personnel, aucun problème. Il n'y a pas de frontière entre chez lui et la voiture, c'est le même espace. Il va prendre l'habitude de sortir très très souvent de l'agglomération, où il habite, pour aller voir de la famille, pour aller voir des amis. Il va prendre le train très rapidement, il va prendre l'avion, aujourd'hui, très rapidement aussi. Il va en vacances, assez régulièrement, dans des lieux qui changent. On sait aujourd'hui, je vous épargne les statistiques, hein, sur tout ce que je raconte, il y a plein de statistiques, il y a plein de chiffres, il y a plein d'enquêtes, mais on sait aujourd'hui que les cadres aiment bien changer de lieu de vacances, hein, bon, bref. Il va franchir les frontières du pays, là aussi assez rapidement, dès les premières années. Et puis, il va, en sus de la mobilité quotidienne, il va déménager souvent. Je vais y revenir, mais les pratiques de déménagement sont très très importantes aujourd'hui, en particulier dans les CSP+. Et à chaque fois, à chaque déménagement, il va faire l'expérience subjective du départ, du deuil, et puis de la réimplantation dans un nouveau territoire, avec tout ce que cela implique. Et puis en même temps, bien sûr, il aura un usage courant du téléphone, d'Internet, des outils de la mobilité virtuelle. À 10 ans, voilà quelqu'un qui a fait des apprentissages absolument fondamentaux dans 4 domaines. Premier domaine, la cognition de l'espace. Voilà quelqu'un qui comprend comment l'espace est organisé et qui a eu la capacité de modéliser l'organisation de l'espace. C'est-à-dire qu'il s'est construit un outil cognitif qui va faciliter son utilisation de l'espace. Quand faites un petit effort de souvenir, la première fois qu'on est arrivé dans un aéroport, complètement perdu, c'était le bazar total, on ne sait pas comment ça fonctionne, il y a du bruit, des informations partout, on ne comprend pas comment l'espace est organisé avec ses frontières, avant les barrières, après les barrières, tout ça. La deuxième fois, dans un autre aéroport, on est un peu perdu, mais un petit peu moins. La cinquième, ça commence à aller. La dixième fois, on peut se retrouver dans n'importe quel aéroport du monde, on est parfaitement à l'aise, parce qu'on a modélisé l'organisation de cet espace particulier qu'est l'aéroport. Deuxième apprentissage fondamental, l'apprentissage du dépaysement, de la gestion affective, de l'inconnu, de l'éloignement des mondes étrangers. C'est quelque chose qui est un véritable apprentissage. Troisième apprentissage, celui des compétences techniques, de l'usage des outils de la mobilité. Ils sont très nombreux. Comment utiliser la voiture? comment utiliser les très nombreux ustensiles que l'on trouve dans une station de métro ou dans une gare. Ça ne va pas de soi. Comprendre le fonctionnement du moniteur qui donne des tas d'informations, comprendre le fonctionnement du distributeur automatique de titres, du valideur, etc., etc. Il faut l'apprendre. Et puis, quatrième apprentissage, l'apprentissage, l'acquisition de compétences relationnelles. Se réimplanter quelque part, être capable de nouer des relations avec des gens qu'on voit peu, être capable de nouer des relations avec des gens qui sont de mondes sociaux différents d'une autre. Au global, voilà quelqu'un qui, à 10 ans, a déjà construit son cosmopolitisme. Vous savez ce que c'est que le cosmopolitisme ? C'est ouvert à toutes les civilisations, à toutes les cultures. C'est une très vieille compétence, vieille comme le monde. Celle des militaires, celle des marchands, celle des diplomates, celle des étudiants. Pendant très longtemps, quand les étudiants se recrutaient dans les strates les plus favorisées de la société, aujourd'hui, le cosmopolitisme, c'est la compétence générique de notre société dispersée. Du côté de l'enfant issu d'un milieu moins favorisé, moins de vacances, il y avait un chiffre encore dans le monde d'hier, très clair, hein, dans certains milieux, 80% des enfants ne partent jamais en vacances. Moins de déplacements lointains, un accès problématique à la voiture, avec de l'angoisse, avec des restrictions, pas d'accès au train. L'avion ne fait pas partie de l'univers d'une partie de nos concitoyens. Des gens qui sortent très rarement de leur agglomération, presque jamais de leur région, absolument jamais de leur pays. Au final, moins d'occasions de modéliser les espaces, moins d'opportunités de développer la capacité à la gestion affective du changement, de la rencontre avec la différence. Au moment de l'accès à la formation ou au premier emploi, par exemple, moment déterminant, vous avez bien compris que les deux jeunes ne sont pas franchement dans la même situation. L'un a la capacité d'aller très loin et de se saisir de toutes les ressources qu'il va pouvoir trouver sur un territoire largement défini, et l'autre n'a accès qu'à un territoire extrêmement restreint, très très restreint, et pas simplement pour des questions matérielles, de moyens de mobilité. Il n'a pas la capacité de cognition de l'espace, de gestion affective et autres. Deuxième point, ça va. Deuxième point, dispersion, deuxième point, donc le titre, dispersion de l'espace, et en même temps, grand écart de la société. La société dispersée, elle émerge au cours des Trente Glorieuses, dans les années 1950, 60, 70, au cours desquelles la France entre très brutalement et très totalement dans la modernité. 30 années absolument déterminantes. Les Trente Glorieuses, c'est l'expression de l'économiste Jean Fourastier. Il a donné cette expression au titre d'un livre qu'il a écrit. Vous l'avez peut-être lu, les deux premiers chapitres du livre sont extrêmement réussis. Hein, beaucoup d'auteurs. Premier chapitre du bouquin, Fourastier nous décrit un village de France. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de réfrigérateur. Les femmes ne sont pas salariées. Elles travaillent, bien sûr, mais elles ne sont pas salariées. Les gens ne sortent jamais de leur territoire. Bon, on est franchement dans une France... une vieille France, hein. Et Fourastier ne nous dit rien de plus. Deuxième chapitre du livre, il nous présente un village dans lequel il y a des voitures, beaucoup de voitures, il y a du téléphone, il commence de voir la télévision, les femmes ont accès au salariat, tout le monde sort, il y a beaucoup d'engins dans les champs, etc. L'agriculture a déjà commencé de baisser le pavillon, les gens travaillent ailleurs, un village totalement différent. Et Fourastier nous dit, c'est le même. C'est le même que je viens de décrire à 30 années d'écart, les Trente Glorieuses. C'est très, très parlant. Alors, la périodisation historique, hein, moi je dis les Trente Glorieuses. La périodisation historique, c'est toujours quelque chose de très, très difficile, même pour les historiens, toujours sujet à caution et à débat. Donc, moi je dis les Trente Glorieuses, c'est à partir de ce moment qu'on passe vraiment dans la société dispersée. D'autres disent qu'en fait, il faut plutôt regarder... la période industrielle, c'est avec l'entrée dans la société industrielle qu'on commence de voir le train, des grands centres industriels qui s'implantent loin des villes, donc des mouvements de population, l'urbanisation, etc. D'autres vont encore plus avant. Ils disent que, en fait, l'entrée dans un début de société mobile, c'est le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, avec l'invention d'un premier réseau routier national, centralisé autour de Paris. Donc, on peut placer le curseur à différents endroits. Quoi qu'il en soit, en une cinquantaine d'années, 1960-2010, le rapport des Français a connu à leur territoire, a connu une vraie révolution. Et le terme de révolution, pour moi, n'est pas exagéré. On peut essayer de se reporter mentalement dans les années 1960. La voiture commençait à peine de se diffuser. Moins d'un quart des ouvriers avaient une voiture. Le train était rarissime. On prenait une fois, peut-être dans sa vie, dans certains milieux, le train, encore, l'avion totalement inexistant. Le téléphone et la télévision commençaient à peine d'entrer dans certains foyers. Pour le dire autrement, 80%, c'est un chiffre évidemment arbitraire, 80% de la population française avait pour horizon de vie quotidienne une proximité assez immédiate. Le paysage est totalement différent en 2010. On connaît tous la place de la voiture dans notre société. 85% à peu près des ménages sont équipés d'au moins une voiture. 20% des ménages français ont plus de deux voitures. Le train est banalisé, totalement banalisé. Des centaines de milliers de Français vont tous les jours au travail en TGV, ce que pour ma part j'appelle les grands navetteurs. On va au travail en TGV. Les vacances, le tourisme, l'avion ne sont pas du tout réservés aux élites. Le téléphone et la télévision ne sont plus aujourd'hui les équipements du ménage, ce sont devenus les équipements de l'individu. Il y a un petit peu le gap qui a été. Sur le plan de la transformation des territoires, c'est considérable, bien sûr. Première transformation, la périurbanisation. Elle continue d'étaler les villes toujours de plus en plus loin. Deuxième réalité, plus discrète, mais moins visible, mais très sûre, ce qu'on pourrait appeler la régionalisation des agglomérations. En 1970, le sociologue français, urbain Manuel Castells, parlait de régions urbaines pour désigner les villes. Il disait des régions urbaines. Dans les années 90, François Achère disait la métropole. Et c'est une réalité d'aujourd'hui. Une bonne partie des habitants de Rhône-Alpes vivent dans une grande et même agglomération qui englobe Grenoble, Lyon, Saint-Étienne. Une grande partie des citadins du Nord-Pas-de-Calais vivent dans une seule et même agglomération multipolaire, Lille, Roubaix, Tourcoing, Waterloo, Douai, Lens, Valenciennes. C'est une même agglomération. Bref, en 50 ans, la société française s'est considérablement dispersée. Les liens sociaux se construisent au quotidien, vraiment au quotidien, sur de très grandes distances, régionales, nationales, internationales, à travers trois types de mobilité. La mobilité physique, le déplacement, le train, la voiture, l'avion, la mobilité résidentielle et la mobilité virtuelle. La mobilité virtuelle, c'est notamment le téléphone, la télévision et Internet. Alors, le rapport entre société dispersée et mobilité virtuelle, ou entre mobilité physique, le déplacement concret dans l'espace, et puis le déplacement par des ondes, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. À ma connaissance, personne n'a encore rien établi de très tangible. C'est pas encore bien senti comme problème. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Il y a des tas de choses passionnantes qui sont, des questions passionnantes qui sont posées, mais n'y a pas encore un bouquin qui clarifie un petit peu les articulations. Et pourtant, même si ça n'est pas clair, on sait que c'est très très important. Je vais vous en donner deux exemples de l'importance de la mobilité virtuelle. Imaginez quelqu'un, une dame qui habite à Poitiers par exemple, et qui passe tous les jours une heure au téléphone avec sa vieille maman qui est restée dans un village des Pyrénées. Une heure au téléphone, c'est pas grand chose. On est très nombreux à le faire. Mais tous les jours, elle le fait. Tous les jours, grâce au téléphone, cette dame est très au courant. Elle suit de très près quotidiennement ce qui pousse dans le jardin, le temps qu'il fait dans le village des Pyrénées, ce qui advient aux voisins, les problèmes, les amours, les disputes, etc. etc. Elle, son espace personnel, je reprends ce terme, il intègre de manière indiscutable un village dans lequel elle ne va peut-être que très très rarement, une fois par an, deux fois par an. Un autre exemple que je trouve encore plus marquant, prenez le cas de quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds à New York, mais qui est un grand lecteur de romans policiers, qui regarde les films policiers, ceux qui mettent en scène notamment New York, et puis imaginons qu'il soit un utilisateur de Google Earth. Hein, vous connaissez ce truc qui permet de se balader dans les villes de pas mal, dans les rues de pas mal de villes du monde. Eh bien voilà quelqu'un qui va pouvoir s'approprier très fortement, qui va pouvoir parler de manière pertinente, juste, d'un espace dans lequel il n'a jamais mis les pieds. Ça, c'est la mobilité virtuelle. On ne peut pas la négliger comme ça d'un revers de main. Le rapport maintenant entre dispersion sociale et dispersion spatiale. Cette dispersion dans l'espace, elle n'est pas identique du tout pour tous les Français. Au contraire, elle s'accompagne d'une sorte d'étirement très important de la société, entre ceux qui ont accès à des territoires très étendus, très diversifiés, et ceux, je vais en parler, qui n'ont accès qu'à un micro-territoire dont elles ne peuvent pas sortir. Je vais rapidement brosser le mode de vie, évoquer le mode de vie de trois populations qui ont des pratiques différentes. La première population, je l'appelle celle des ubiquistes. Ubiquité, la capacité d'être un peu partout au même moment. Seconde population, celle des navetteurs, ceux qui font des navettes, et notamment la navette domicile-travail. Et puis troisième population, celle des insulaires, ceux qui sont coincés sur une petite île, toute petite portion du territoire. Donc mobilité tout azimut, les ubiquistes sont des personnes, des ménages, qui manipulent très aisément tous les registres de la mobilité et qui vivent en passant facilement d'un territoire à l'autre. Leurs mobilités quotidiennes sont très importantes dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Ce sont des personnes qui ont un usage routinier de la voiture, du train et de l'avion et qui sortent de l'espace régional et même souvent de l'espace national plusieurs fois par semaine. Dans certaines grandes entreprises ou moins grandes, l'avion est véritablement intégré à la vie routinière de la personne, du cadre. Cette mobilité quotidienne, elle est couplée à une mobilité résidentielle très forte. Aujourd'hui, le déménagement, à l'échelle du pays tout entier, voire au-delà, est considéré comme une dimension normale de la vie professionnelle dans certaines catégories socio-professionnelles. Et le nombre de 10, 12, 15 déménagements est tout à fait usuel, tout à fait habituel. Ça n'est pas exceptionnel. Sur ce plan de la mobilité résidentielle, on observe des nouveautés chez les ubiquistes. J'en évoque deux. D'abord, ce qu'on appelle la birésidentialité. Des gens qui ont deux domiciles principaux. Et j'insiste bien sur les deux domiciles principaux. La maison, dans laquelle vit la famille avec les enfants, où sont scolarisés les enfants, et puis un autre domicile principal dans la ville de travail de monsieur ou de madame. Et c'est bien un domicile principal, parce qu'on voit maintenant que ce sont des appartements ou des studios qui sont achetés, décorés, aménagés, appropriés. Au-delà même de la bi-résidentialité, on peut commencer de parler de ce que j'appelle, c'est pas très élégant, mais c'est pas grave, des réseaux domiciliaires. Il y a des gens qui vivent à l'échelle d'encore plus de domiciles. Ils ont un premier logement principal, la maison dans une certaine ville. Un deuxième logement principal, c'est l'appartement dans la ville de travail. Et puis un troisième logement principal, toujours principal, l'ancienne maison de vacances au bord de la mer, de la campagne, des choses comme ça. Mais ça n'est plus simplement une maison secondaire parce qu'on y va très très souvent, on s'y échappe très très souvent pendant la semaine, pendant le week-end, parce qu'on n'y va pas forcément ensemble, mais les enfants ils vont de leur côté, chacun des membres du couple y va du sien. D'accord ? C'est-à-dire on vit à l'échelle de domiciles qui sont de plus en plus éclatés. Il y aurait des choses intéressantes à dire là-dessus, mais je ne peux pas aller. Cette population, elle est mobile donc pour le travail, dans la vie quotidienne, elle est très mobile sur les week-ends, sur les vacances. Deux ou trois fois par an, les ubiquistes prennent des vacances et franchissent très facilement les frontières. Et puis, à ces déplacements physiques et résidentiels, on a une pratique intense de la mobilité virtuelle. Un dernier point les concernant, qui est important. Les ubiquistes qui sont impliqués dans des placements permanents, mais en même temps, ils sont présents partout à la fois. Ils sont très présents dans leur quartier de résidence, dans l'agglomération de résidence, dans la région, dans le national et dans l'international. Ils pratiquent des territoires qui sont un petit peu sur le modèle des poupées russes. Je dis ça parce qu'à un moment, on racontait que ceux qui se déplacent beaucoup n'étaient pas présents dans leur quartier. En quelque sorte, ils glissaient sur les territoires de la proximité. C'est faux. Les populations bobos qui gentrifient les centres-villes et qui se les approprient fortement sont aussi celles qui consomment le plus d'avions. Donc ce n'est pas de l'alternative, c'est de l'addition. C'est plus, 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 plus. Cette population, évidemment, elle se recrute d'une manière très générale du côté des cadres, du privé, du public, mais aussi des milieux créateurs, mais aussi des étudiants. Une certaine frange du monde étudiant se retrouve dans une grande partie de ces pratiques de mobilité dans ce rapport au territoire. Deuxième population, on va dire que celle des navetteurs, ils pratiquent une hypermobilité dans la proximité. Hypermobilité, mais dans la proximité. Les navetteurs sont les personnes dont le mode de vie est rythmé, routinisé, par les allers-retours quotidiens entre domicile et travail. Et c'est à partir de ce déplacement domicile-travail que tout le reste de la vie quotidienne s'organise. Les enfants, les courses, les relations sociales, familiales, etc. Les navetteurs, ils sont de plus en plus nombreux. En 1982, vous voyez, je ne vais pas loin, en 1982, moins de la moitié des actifs travaillaient hors de leur commune de résidence. Aujourd'hui, 75% des actifs travaillent hors de la commune de résidence. Donc on a vraiment une progression très très forte. Les navettes s'allongent considérablement. En 1975, un Français moyen parcourait en moyenne, les moyennes c'est pas bon mais ça marche quand même, c'est pratique, en moyenne 25 km par jour. Aujourd'hui, ce même Français moyen parcourt en moyenne 40 km par jour. Donc là encore, une progression vraiment très très importante. Et bien évidemment, l'essentiel de cette mobilité se fait en voiture. Transport collectif marche bien dans les parties hyper centrales des villes, en région parisienne, mais ailleurs, c'est place à la voiture pour le moment. Attention, ces navetteurs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les banlieusards des années 60. Hein ? Les banlieusards des années 60, vous vous rappelez, on disait métro, boulot, dodo. Et quand on disait métro, boulot, dodo, en fait, on faisait référence à une situation de déplacement en transport collectif, je viens de dire que c'est la voiture, de très grandes masses de salariés qui se déplaçaient ensemble aux heures de pointe et sur des déplacements radio de la périphérie vers le centre et du centre vers la périphérie. Tous les termes de cette situation ont complètement changé. Donc la voiture, plutôt que le transport collectif. Les navettes, aujourd'hui, se déploient dans tous les sens, bien sûr, de la périphérie vers le centre, du centre vers la périphérie, de banlieue à banlieue, de centre vers le centre d'une autre agglomération, d'une banlieue vers une autre banlieue, d'une banlieue vers le territoire rural où sont en train de se réimplanter un certain nombre d'activités. Donc un grand désordre dans la géographie des déplacements. Les heures de pointe sont écrêtées très fortement. Elles existent encore, mais on ne les voit plus vraiment, les heures de pointe. Pourquoi ? Parce que les déplacements suivent la désynchronisation très forte du travail. En une vingtaine, en une trentaine d'années, de plus en plus de temps partiel, de plus en plus d'emplois avec des horaires glissants, d'emplois à grande coupure, de travail de nuit, de travail de week-end, le travail se désynchronise et donc les mobilités quotidiennes se désynchronisent elles aussi. Les mobilités des navetteurs, à titre professionnel et à titre personnel, elles sont à la fois moins fréquentes et moins loin, elles vont moins loin que celles des ubiquistes. On est sur un territoire de vie quotidienne qui est celui de l'agglomération, un territoire des activités plus exceptionnelles, le loisir et la vie sociale, qui est la région, et on sort de la région plus rarement, quand même, pas de manière tout à fait exceptionnelle, mais plus rarement. D'accord ? Donc on est quand même sur des pratiques qui sont très très différentes. Les navetteurs, c'est une catégorie qui n'est pas très, très cohérente, on va dire. Toute la classe moyenne, ou en tout cas tous ceux qui aujourd'hui ont encore un rapport suffisamment stable à leur emploi pour pouvoir faire des choix d'implantation résidentielle. C'est à partir de là qu'on organise la vie quotidienne, à partir du choix résidentiel. Les insulaires maintenant, troisième et dernière catégorie, donc là il n'y a pas d'hypermobilité, on est au contraire dans un enclavement très marqué. On peut représenter notre société dispersée sur le mode de l'archipel. C'est Jean Viard qui a utilisé ce terme d'archipel et je le trouve vraiment très très bienvenu. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que nous vivons tous à l'échelle de plusieurs îles qui composent notre archipel quotidien, l'île du travail ou les îles du travail, pour ceux d'entre nous qui avons deux ou trois ou quatre lieux de travail, la résidence ou les résidences principales, voilà autant d'îles, d'autres îles, les îles du loisir, les îles des vacances qui peuvent aller très très loin, bref, il y a beaucoup d'îles qui composent les archipels. Les ubiquistes, ils ont l'archipel le plus étendu, ils pratiquent beaucoup d'îles différentes. Les navetteurs pratiquent beaucoup d'îles eux aussi, mais quand même beaucoup moins. Les insulaires, c'est cette catégorie de citadins qui ne pratiquent qu'une et une seule île, dont ils ne sortent jamais. En l'espèce, leur île, c'est leur quartier, les fameux quartiers chauds, les banlieues les plus pauvres, mais les insulaires, on les retrouve dans beaucoup d'autres endroits, on les retrouve en cœur de ville, au cœur de Paris, au cœur de Lyon. Il y a des gens qui ne sortent jamais, absolument jamais de leur quartier. Je les ai rencontrés. Ils ne sortent jamais de leur quartier. Et puis dans le rural, il y a aussi beaucoup de gens qui ne sortent jamais de leur commune rurale et de leur petit village. On ne les voit pas, mais c'est comme ça. Donc il y a une espèce de paradoxe de notre société dispersée, de plus en plus dispersée, dans laquelle une partie importante des personnes n'ont accès à aucun des modes de mobilité et ne peuvent pas sortir, s'affranchir de leur enclavement. Alors pourquoi de telles insularités? Pourquoi les gens restent-ils coincés sur leur territoire? Pour des tas de raisons, bien sûr, j'en évoque rapidement quelques-unes. D'abord, la modestie des revenus, bien sûr. Si on regarde du côté des allocataires de minima sociaux, aujourd'hui, un ménage sur 10 a une voiture. C'est pas beaucoup. Et souvent, la voiture, bah c'est vrai, la personne peut dire « Oui, j'ai une voiture, elle est là-bas sur le parking, et puis c'est une super BMW. » Sauf qu'elle date d'il y a 30 ans, le moteur est cassé depuis 20 ans, il n'y a pas d'argent pour mettre de l'essence, il y a plein de contraventions. Bref, il n'y a pas de voiture, il y a très très peu de voitures. Les transports collectifs restreignent aussi beaucoup l'utilisation du transport. Pardonnez-moi, les problèmes financiers restreignent aussi beaucoup l'usage du transport collectif. En région parisienne, quand on veut prendre le RER, qu'on habite à 15 km à vol d'oiseau de Paris, et qu'on veut prendre le RER, bah c'est 2,50 euros. 5 euros aller-retour. Une partie importante ne peut pas mettre 5 euros dans un déplacement comme ceci. Ce n'est pas possible. Entre aussi en ligne de compte des enjeux d'identité et d'image de soi. Ils sont très importants. Sortir du territoire habituel, celui où on est connu, fait courir le risque d'être désigné comme le pauvre, fait courir le risque d'être stigmatisé. Quand on reste chez soi, il n'y a pas ce problème. L'identité est préservée. On préserve son identité en restant immobile. Quatrième élément, et j'arrêterai de les lister là, voilà. À nouveau, des problèmes de compréhension de l'espace. Les agglomérations, nos agglomérations, en se développant, en s'étalant, elles s'étalent toutes, se compliquent d'une manière extraordinaire. Les agglomérations, si on les regarde d'avion, c'est un enchevêtrement terrible de zones d'activité, de zones résidentielles, de zones de grands ensembles, de zones commerciales, le tout étant séparé par des grandes infrastructures ferrées, par des grands terrains de football et des machins de sport, par les autoroutes, les périphériques ou les rocades, les voies rapides, les boulevards urbains. C'est une mosaïque extraordinairement compliquée et qui se complique toujours. Le transport collectif, lui aussi, se complique considérablement. On veut y apporter des tas de nouveaux services. Toujours plus de machins, d'automates, toujours plus d'annonces sonores, une déictique qui est toujours plus copieuse. À ça près qu'on produit des environnements qui sont totalement et de plus en plus inaccessibles à une grande partie de la population, celle qui ne sait pas lire ou pas bien lire. Un Français sur 10 a des problèmes avec la lecture et l'écrit aujourd'hui. C'est un chiffre de l'INSEE, dans l'INSEE première. Ça pose des problèmes terribles aux gens qui sont immigrés ou issus de l'immigration. La complication de nos espaces urbains est rédhibitoire pour une partie de la population. Une faible mobilité quotidienne des insulaires, cette faible mobilité, on la retrouve également sur le plan résidentiel. C'est une population qui ne déménage pas, ou qui déménage en faisant des sauts de puce sur une même commune ou dans un même quartier. On déménage en allant dans une autre barre ou dans un autre morceau du quartier. Mais en tout cas, il n'y a pas de mobilité résidentielle, il n'y a pas de mobilité de loisirs, il n'y a pas de mobilité de vacances. Donc l'horizon quotidien est borné à un enclavement très strict. Et cet enclavement, eh bien, il produit un cercle vicieux. Peut-être avoir le temps qui est terrible. Le cercle vicieux de l'enclavement. Pas de mobilité, pas d'accès aux ressources administratives, aux aides de l'État, pas d'accès à l'emploi, donc de moins en moins de ressources, et donc des désapprentissages. en matière de mobilité et des gens qui s'enclavent toujours plus. Je termine et je voudrais, voyez, je suis parfaitement à l'heure, c'est bien. Je termine en donnant deux ou trois petits points de conclusion. La mobilité, c'est aujourd'hui, ce n'est pas un idéal de mon point de vue, il ne faut pas la penser telle dans ce registre, la mobilité c'est une norme sociale. Et comme toutes les normes sociales, la mobilité, elle produit des personnes conformes et elle produit des déviants. Le déviant de la société industrielle, c'est le chômeur. Typiquement, c'est le célibataire qui ne veut pas se fixer sur un bassin d'emploi et qui reste mobile. Le déviant de notre société dispersée, c'est l'enclavé, c'est l'insulaire. Deuxième remarque, relative à une question à ce qu'on peut raconter sur les problèmes de ségrégation. Vous savez qu'il y a plusieurs types de ségrégation. Le premier type, c'est ce que l'on dit la ségrégation associée. La ségrégation associée, c'est quand les riches et les pauvres habitent ou habitaient les uns à côté des autres. L'exemple typique, c'est la cité médiévale. Il y avait des très riches, il y avait des très pauvres, mais ils vivaient ensemble, dans les mêmes espaces. Encore aujourd'hui, encore que, c'est pas tout à fait ça, mais dans le 16e arrondissement, en tout cas pendant longtemps, à Paris, on avait un modèle de ségrégation associée, qui était intéressant. Les riches habitaient les beaux espaces des beaux immeubles haussmanniens, et puis quand on montait dans l'immeuble, on descendait dans la hiérarchie sociale, et les bonnes vivaient en haut dans de mauvaises conditions. Ségrégation associée. Deuxième modèle, la ségrégation dissociée. Celle qui fait peur aujourd'hui à beaucoup de personnes, entre autres aux géographes, aux sociologues, c'est-à-dire cette ségrégation qui se met en place grâce à l'espace. Typiquement, aux États-Unis, au Brésil, en Turquie, des gens qui vont habiter dans des lotissements fermés très très loin des centres-villes. Dans les centres-villes, il y a de l'insécurité, en tout cas on s'imagine qu'il y a de l'insécurité, et donc on part, on met de l'espace entre les groupes sociaux. Ségrégation dissociée. Dans la société dispersée émerge, me semble-t-il, une ségrégation qu'on pourrait dire découplée. Une ségrégation découplée. Pourquoi ? Parce que on voit que les territoires des insulaires, des navetteurs et des ubiquistes se superposent les uns par rapport aux autres sans jamais s'interpénétrer. Les uns et les autres vivent bien dans les mêmes agglomérations. Les ubiquistes vont beaucoup plus loin, les navetteurs un petit peu plus loin, les insulaires ils restent coincés dans leur truc. En tout cas, les mêmes espaces par endroits sont bien pratiqués par toutes ces couches, par ces catégories de population, mais il y a tout un ensemble de dispositifs, des infrastructures, des dispositifs sociaux, des dispositifs techniques, par exemple la complexité des territoires, des gares, du transport collectif, qui font que ces territoires, ils sont superposés, mais il n'y a pas d'interpénétration. Troisième et dernière remarque, je finirai avec ça, pour dire que ces modes de vie que j'évoque, ils sont, c'est une description au plan de l'individu. Le mode de vie est individuel, il est pratiqué individuellement, mais avec des conséquences collectives très fortes, très nettes, indiscutables. Je vais prendre un seul exemple, celui de la divergence urbaine. Il y a Jean-Paul Fitoussi, entre autres, qui alerte les pouvoirs publics sur les risques que font courir à certaines agglomérations la divergence urbaine. C'est-à-dire le fait que les communes pauvres deviennent de plus en plus pauvres, les communes riches deviennent de plus en plus riches. Il y a des chiffres, c'est tout à fait établi, on sait comment ça fonctionne. Un des éléments de cette divergence urbaine, on le trouve dans les pratiques de mobilité quotidienne. Je prends un exemple simple que j'ai rencontré. Prenons une cité parisienne, là où il y a des mauvaises images, etc., des jeunes qui ont d'emblée des problèmes de mobilité personnelle. C'est difficile pour eux d'aller vers l'emploi. Donc, ils essayent d'aller vers l'emploi, mais c'est compliqué, ça coûte cher, les horaires de travail ne sont pas merveilleux, le travail n'est pas passionnant, le salaire n'est pas passionnant. Bref, on essaye, mais au bout du compte, ça ne fonctionne pas. Les jeunes de ce quartier ne réussissent pas à aller à l'emploi. L'entreprise, et vous les avez rencontrés là aussi, les entreprises ont des problèmes de recrutement majeurs dans la logistique, dans la grande distribution, dans le nettoyage industriel. Les entreprises ont des problèmes de recrutement vraiment très très importants. En quelque sorte, ils attendent les jeunes qui habitent ces quartiers. C'est pas loin pourtant, la cité est à 5 km, mais 5 km c'est encore trop dans certains cas. Au bout du compte, que se passe-t-il aujourd'hui ? L'entreprise se délocalise. Elle va se rapprocher d'un autre bassin d'emploi, un peu plus porteur, dans lequel les jeunes seront un peu plus mobiles. La délocalisation, c'est 5 km, 10, 15 km, pas plus. Ça suffit dans une agglomération pour changer d'environnement social. À partir de là, eh bien, les jeunes de la cité, ils vont être encore plus loin de l'emploi, et là on est sûr qu'ils n'iront jamais. Et à partir de là, on entre dans des problèmes de déqualification, de perte d'employabilité, et puis au plan collectif, moins de ressources fiscales des ménages, moins de ressources fiscales de l'entreprise, et voilà comment on aboutit à la divergence urbaine. Merci.
Je vais donner très vite la parole au public. Nous disposons d'une demi-heure. Non, sans vous remercier infiniment, Éric Le Breton, parce que, d'abord, vous avez pris la peine de répondre à la commande, hein, qui était de nous sensibiliser aux inégalités face aux mobilités, à travers ne serait-ce que cette typologie entre les navettaires, les ubéquistes et les insulaires, mais vous nous avez entraîné bien au-delà. Ça fait personnellement des années que je suis vos travaux, et ça fait donc des années que vous nous sensibilisez, que vous nous alertez sur le fait que la mobilité n'est pas qu'une question de transport, qu'elle mobilise toutes sortes de compétences et qu'elle est donc un enjeu d'éducation ou d'apprentissage. Mais là, vous avez franchi encore une nouvelle étape dont je prends tout la mesure à travers cette analogie entre la mobilité et la langue qui nous aide beaucoup à penser. Alors je garde sous le coude cette question que ça suscite chez moi, qui serait de savoir si au fond le problème des communs des mortels que nous sommes, qu'on soit insulaire, ubiquiste, etc., n'est pas de devenir en quelque sorte polyglotte, au sens où les différents opérateurs qui participent à nos mobilités, que ce soit l'opérateur de transport ferroviaire, le constructeur automobile, etc., ont tous en tête les enjeux de mobilité, mais n'ont pas forcément, ne pratiquent pas la même langue de la mobilité, et que tout l'enjeu, c'est de les faire travailler ensemble sur une vision au moins partagée de ce qu'est la mobilité dans une société comme la nôtre ou à l'échelle d'une agglomération. Mais en espérant que ma question ne soit pas confuse, je la garde sous le coude et je donne priorité, si vous le voulez bien, si tu le veux bien, parce qu'en fait on pratique le tutoiement en dehors des conférences, on prend les questions de la salle composées d'acteurs de l'agglomération de Poitiers. Voilà, très bien. Le micro. N'hésitez pas à vous présenter.
Chantal Nouquet, j'habite Poitiers, je suis aussi élue ici. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question d'aménagement des quartiers. J'aimerais savoir s'il y a du recul par rapport à l'établissement d'entreprises dans les zones franches, puisqu'on a essayé de favoriser l'installation d'entreprises dans des zones plus défavorisées. Est-ce que maintenant on a le recul, justement, puisque vous faisiez la constatation que les entreprises avaient plutôt tendance à quitter ces endroits ? Et puis, dans le même type de question, on a toujours la réflexion, il faut équiper les quartiers des services publics, des commerces de proximité, et finalement, c'est un cercle vicieux, puisque les gens... moi, je travaille très près du quartier Couronnerie-Saint-Éloi, et ce manque de mobilité, c'est flagrant. Enfin, on a dans le collège des gamins qui viennent un petit peu de l'extérieur et d'autres qui sont sur place, et là, j'ai tout à fait tout retrouvé ici, quoi.
Alors, sur les zones franches, je ne sais pas très exactement. Si vous allez sur le site de la délégation interministérielle à la ville, vous aurez un bilan de l'implantation économique des zones franches. Il existe. Il n'y a pas très, très. C'est pas très vieux. Alors, je crois que c'était un bilan qui était un peu en demi-teinte, comme tout ce qui concerne la politique de la ville. Ils étaient contents parce que je crois que 5000 emplois avaient été créés. Voilà. Et puis en même temps, c'est pas grand-chose, c'est pas, évidemment pas du tout à l'échelle du problème. Et ça n'empêche pas les quartiers les plus pauvres de s'enfoncer dans la pauvreté et dans les difficultés. Certains, Jean-Paul Fitoussi, dans un rapport qu'il a publié à la documentation française en 2007 ou 2008, je crois, disait que pour certains de ces quartiers, de son point de vue, c'est fichu. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse maintenant, il y a de telles logiques qui sont à l'œuvre que ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Après, sur la question, c'est une vraie question, du choix des services, des pouvoirs publics, de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met tout dans les quartiers ? Comme ça, les gens n'ont plus à bouger, mais on peut résoudre les problèmes. Ou est-ce qu'on met tout dehors et puis on les amène à bouger. Mon opinion en tout cas, c'est que c'est important de remettre ce qui avait été enlevé dans les quartiers, c'est-à-dire des centres commerciaux, de ce qui permet au moins de vivre. Et puis de faire ce qu'il faut pour que ça reste en bon état, etc. C'est important aussi de remettre du service public un petit peu, la crèche, un bout de commissariat éventuellement, des choses comme ça. Après, s'imaginer qu'on va résoudre les problèmes parce qu'on va localiser, on va payer très cher un artisan pour qu'il vienne venir construire son échoppe, non. L'emploi, il est volatile, il bouge et il faut que les gens apprennent à bouger. Alors il y a plein d'initiatives. Dans tous ces quartiers, il y a énormément d'initiatives portées par des associations, souvent des centres sociaux, consistant à mettre en place, à bricoler des systèmes qui permettent aux jeunes et aux moins jeunes de sortir du quartier pour aller vers l'emploi.
Quelqu'un s'est présenté à moi tout à l'heure en disant « La Poste ». Je ne sais pas si c'était son patronyme ou s'il représentait La Poste. Si c'était le cas, qu'il n'hésite pas à intervenir dans la continuité. Une question ?
Ah. Oui, Jean-Denis Victor, je fais partie du Conseil de développement. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup apprécié la comparaison que vous avez faite entre les deux petits garçons de 10 ans. Alors, ça m'amène à deux réflexions. La première, vous dites celui qui déménage souvent, il est plus favorisé par rapport aux autres. Oui, mais... quand on voit que des entreprises veulent faire bouger les gens, ne serait-ce qu'à 20 km, et que ceux-ci refusent d'y aller parce que X ou Y raison, faudrait peut-être trouver un encouragement pour que ces gens puissent y aller et pour pouvoir leur ouvrir un peu leur horizon. Et puis, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que je crois que dans les moins favorisés, il y a deux catégories. Il y a la catégorie de ceux qui aujourd'hui sont dans une campagne reculée, et Dieu sait qu'en France on a encore des coins de campagne qui sont reculés. Pour cela, que sera l'agriculture demain? Que sera le travail demain? On ne sait pas trop. Et puis il y a les autres qui s'accrochent dans les banlieues dites sensibles, et que l'on aura, je pense, beaucoup de mal à faire bouger de leur ghetto. Vous l'avez évoqué à la fin en disant on va pas vers eux. Je suis pas convaincu en réalité que même si on allait vers eux, ça servira à grand chose parce qu'ils se sont fait un mode de vie qui, malheureusement, c'est aussi une de vos remarques, est peut-être irréversible.
Alors, sur cette question-là des délocalisations d'entreprises, il y a une thèse, il y a des travaux, mais il y a une thèse notamment qui a été faite, qui est vraiment intéressante. Elle a été rédigée par Cécile Vignal. ou si vous regardez sur Internet, vous pourrez la télécharger parce qu'elle est disponible sur Internet. Et c'est ce qu'elle a examiné très précisément. Quand des entreprises se délocalisent en proposant à leur personnel de les suivre, qu'est-ce qui se passe ? Alors, toujours pas, quand on dit délocalisation, ça me paraît important de le dire, hein, c'est qu'on entend toujours à la radio les délocalisations de grands groupes qui vont en Turquie, en Ukraine ou ailleurs. En fait, 95% des délocalisations d'entreprises restent en France, changent à peine de région, le plus souvent font vraiment quelques dizaines de kilomètres. Hein, les délocalisations, c'est ça, le gros du truc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Cécile Vignal a montré deux choses. Eh bien, d'abord, qu'à la proposition de l'entreprise, presque... pas 100%, mais une grande partie des cadres disent oui, ils y vont. Ils suivent l'entreprise, ils ont suivi l'entreprise, les entreprises. La moitié des agents de maîtrise ont dit ok, on y va, et puis ont suivi, l'autre moitié est restée. L'immense majorité des ouvriers sont restés, ont dit non, on va prendre les primes de licenciement, et puis on va rester. Et alors pourquoi ? Bien pour deux raisons principales. Dans notre société d'aujourd'hui, le rapport au travail est vraiment très compliqué, très anxiogène, en particulier dans certains milieux sociaux. Rester sur place, c'est la possibilité de garder son logement. Et ça, c'est une assurance. C'est une assurance financière, mais c'est une assurance existentielle. On garde sa maison. On est quelque part, on existe. On garde la maison. Et puis, deuxième chose très importante, on garde tous les réseaux sociaux, et notamment les réseaux sociaux indispensables dans le cas où on retrouverait un travail pour garder les enfants. Parce que là aussi, il y a des disparités très fortes. Les cadres utilisent très fréquemment les crèches privées ou les gardes à domicile, mais financièrement, les ouvriers ils n'ont pas forcément la possibilité de le faire. Et donc, ce sont les parents, les grands-parents, les amis qui gardent les enfants. Donc, on ne peut pas s'éloigner de ces territoires où sont implantés les réseaux sociaux. Voyez, voilà peut-être trop ce qui éclaire un peu. Or, sur les quartiers sensibles, c'est irréversible. C'est pas moi qui dis, hein, c'est Jean-Paul Fitoussi. Et il parle d'hystérésis. Hystérésis sociale. C'est-à-dire un phénomène se maintient alors que les causes qui l'ont produite ont, elles, disparu. C'est ça, l'hystérésis. Et il dit, certains quartiers sont dans cette situation d'hystérésis. Oui, c'est sans doute le cas. Pour très très peu de quartiers quand même. Hein. Là, on parle de, que sais-je, moi, d'une dizaine, d'une quinzaine peut-être de quartiers en France qui sont dans des situations vraiment massives. Mais rien n'interdit d'espérer et d'essayer. Et de faire, pas que d'essayer, de faire.
Monsieur.
Oui, moi je voudrais parler des déplacements dans la Vienne. Évidemment, vous avez un discours qui est très très général, mais j'en profite peut-être pour être entendu aussi par quelques personnes qui sont ici, qui pourront relayer mes propos. Je réside l'été à l'extrême ouest du département de la Vienne, où les transports ont totalement disparu. Et on ne sait pas, je n'arrive pas, n'ayant peut-être pas les contacts suffisants avec les personnes, à déterminer si on a supprimé ces transports parce qu'il n'y avait pas candidature à transport, ou voilà, est-ce qu'il y avait une demande ou pas.
Et transport, quand vous parlez des transports, c'est les lignes ferroviaires, c'est quoi exactement? Quand vous parlez des transports.
Oui, les transports, s'il s'agit de lignes en Vienne en particulier, donc il s'agit d'une mobilité des personnes. Alors on ne sait pas si les gens ne se déplacent pas parce qu'ils n'ont plus de transport, ou on a supprimé les transports parce qu'ils n'avaient pas demandé à se déplacer. Ça peut paraître un peu idiot, comme ça. Et moi, je me rends compte que dans ces petits villages, personne, pardon, ne vient à Poitiers, les enfants ne viennent pas. Et les déplacements des enfants se limitent à des voyages de classe. Et parce que se déplacer à Poitiers, comme je le fais ce soir, rien qu'en carburant, ça coûte 10 euros.
Alors.
Il ne s'agit pas de répondre spécifiquement sur Vienne, hein, mais de prendre le...
Oui, non, mais Vienne, mais je trouve ça... C'est un problème qui est amusant, parce que... Bah oui, évidemment, tout a disparu, parce que... Mais ça va peut-être revenir pour le ferroviaire, puisque ce sont les régions, maintenant, depuis un moment. Donc, peut-être qu'elles sont en train de relancer les TER, mais elles ne peuvent pas les relancer forcément partout. Quant au transport interurbain, ce sont les conseils généraux. Les conseils généraux détestent ces transports parce que ça grève très lourdement les budgets. Claudie Lebreton, qui est le président, qui était en tout cas le président de l'association des présidents de conseils généraux, une fois a protesté en disant on en a marre de faire circuler des bus qui sont vides dans les campagnes. Donc quand ils peuvent, ils les ferment. Voilà. Et en même temps, le problème, c'est que les conseils généraux sont pas encore en capacité de lancer des réflexions sur peut-être faire des choses nouvelles. Il y a de la place pour faire des choses nouvelles dans l'interurbain, faire circuler des minibus, un peu sur le modèle du transport à la demande. Enfin, bon, il y a des marges de progression considérables. Mais parce que c'est un vieux monde en même temps, hein. C'est les conseils généraux, bon, bref. Et puis, ce sont des conventions qui sont passées avec de vieux opérateurs locaux, souvent. Alors, le conseil général a une concession avec telle entreprise privée depuis 30 ans. Alors, bon, c'est compliqué, hein. Non, mais vous voyez, c'est... Alors après, une autre solution, mais il dit qu'une vieille solution qui revient à la mode, c'est le déplacement des courses vers les gens. Ça se développe, c'est en train de se développer dans les villes, beaucoup.
Mais une question pour prolonger au fond le débat ouvert, mais aussi pour faire peut-être aussi le lien avec la question que je posais en préambule. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que tu as le sentiment que les différents acteurs, les différentes partie prenante, entre guillemets, comment dans le domaine des mobilités, des transports, prennent conscience de cette extrême complexité, dans le bon sens du terme, de ce système de mobilité. Est-ce qu'il y a des instances ou des acteurs nouveaux qui émergent justement pour faire travailler ensemble, des acteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble pour améliorer le système de mobilité d'un territoire? Est-ce qu'il y a de nouvelles figures, de nouvelles instances, lieux de décision?
Oui, alors les pouvoirs publics ne font jamais, pouvoirs publics et privés ne font jamais assez vite, mais en même temps ils font, je trouve. Et dans ce domaine, il se produit des choses qui sont intéressantes. Par exemple, je prends deux ou trois petits exemples. Par exemple, la SNCF a mis au point des modules d'apprentissage du train qui sont destinés aux enseignants des classes primaires. Vous pouvez aller voir ces modules sur leur site internet. Ils sont librement accessibles à tout le monde, avec des fiches pédagogiques, avec vraiment plein de choses. Bon, alors c'est très orienté SNCF, c'est pas tout à fait pédagogique, c'est pas mal promotionnel, mais quand même, il y a des choses. Donc ça, c'est bien.
TP, bon, qui ne concerne pas directement l'agglomération de Poitiers, hein, qui est la régie autonome de l'Île-de-France, a mis en place des ateliers de mobilité également à peu près dans le même esprit. Mais justement, est-ce que le problème n'est pas que ces opérateurs travaillent chacun dans son coin, alors qu'à vous entendre, c'est une approche globale, transversale de la mobilité qu'il faudrait privilégier?
Oui, c'est une approche globale et transversale, mais sur ce plan-là, moi, je suis très pragmatique et modeste. Voilà. L'action publique, c'est long, c'est compliqué, c'est coûteux, il y a des organisations différentes, il y a des cultures différentes. Alors, on avance en brinque-ballant, difficilement, de manière insatisfaisante, toujours incomplète. Bon, moi, je me raccroche à ces petits trucs. Je disais par exemple, autre exemple que je trouve tout à fait encourageant, Martin Hirsch, en mettant en place le RSA, a organisé, hein, vous le savez, ce qu'il a appelé le Grenelle de l'insertion. Une des journées du Grenelle de l'insertion était consacrée aux problèmes de mobilité. Actuellement, le secrétaire d'État à l'emploi, Laurent Wauquiez, est en train de faire carburer un groupe d'experts sur la manière dont on peut mettre en place des dispositifs d'aide à la mobilité pour les demandeurs d'emploi. Bon, donc il y a des choses. Alors c'est vrai que c'est pas coordonné parce que c'est tellement compliqué.
Alors, madame. Dans les toutes petites choses qui se font, Martine Daban, je suis ancienne conseillère régionale. dans les toutes petites choses qui se font et qui sont des petites pierres comme ça. Par exemple, la région Poitou-Charentes, qui est une région particulièrement rurale, hein, puisqu'il y a 40% de la population qui vit en milieu rural, le conseil régional finance le permis de conduire aux jeunes qui ont un CAP dans les métiers du bâtiment ou dans les... Quoi ? Mais c'est une petite chose, mais c'est vrai qu'on a été quand même très frappés de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes en milieu rural qui ne pouvaient pas aller travailler, bien qu'ayant un diplôme professionnel.
Pour que vous compreniez, monsieur faisait remarquer que c'était quand même au profit de l'usage de l'automobile et que ça, bon, voilà. Si ça va dans le même sens où on laisse réagir Eric ? Ça va. Eric ?
Serveur dans un restaurant. Hein. Je dis que vous n'aurez jamais un bus qui amènera un jeune serveur dans un restaurant travailler avec des horaires, avec les horaires de travail des métiers de bouche, avec les horaires de travail des métiers du bâtiment et que.
Oui, pardon. Je vous cite quand même le cas, je vais vous le dire, j'en donnerai pas le nom, mais vous allez voir de quoi il s'agit, d'une commune, de la communauté de communes du Loudunais. Cette commune, c'est la plus grosse commune après Loudun, quoi. Eh ben, il n'y a plus de transport. Alors, moi, j'ai peine à croire que... les gens, évidemment, quand vous leur parlez, ah ben oui, on va travailler à Poitiers, ceux qui y vont, vont travailler à Poitiers en voiture. Mais moi, je n'ai entendu... moi, ça me gêne pas trop, je suis retraité, hein. Mais je me fais un peu de peine pour les autres quand même, d'autant plus que je suis en associatif dans le domaine des personnes en difficulté. Donc c'est un peu à ce titre que je me pose des questions. Je ne crois pas que la, comme je viens de le dire, la plus grosse commune de la communauté de communes du Loudunais après Loudun n'ait plus de transport. Par contre, vous avez dans l'organisation des transports, vous remarquez, parce que j'ai étudié ça très sérieusement, que vous avez des petits villages qui ont la chance d'être très bien placés sur la trajectoire, où il n'y a pas non plus de candidats au transport, mais le bus passe. Parce que, ils sont sur la trajectoire.
Alors,
on ne tient pas compte de...
Voilà. S'il vous plaît, est-ce que bon, ce constat, etc., peut être nuancé par ce qui s'observe ailleurs en France et en suggérant l'idée qu'il y a une dynamique avec des régions plus à la pointe et qui, à terme, pour des régions ou d'autres territoires, qui pourraient entraîner les autres, y compris le département de la Vienne, apparemment très en retard?
Alors, mais c'est très bien. Oui, madame, il y a dans de très très nombreux endroits de l'aide au permis de conduire. C'est très bien, ça marche, c'est en train de monter en puissance. Voilà, sur cette question, c'est des petites choses. Alors après, vous dites c'est des petites choses, alors vous me tendez la perche. Je vais vous dire, il faut que les collectivités locales arrêtent de faire trop de petites choses dans trop de domaines, hein, c'est-à-dire de donner un petit peu à tout le monde. Parce que, bon... Il faut, dans certains domaines, il faut pousser plus sérieusement. Il faut aider plus sérieusement.
Donc,
ben ça, oui, c'est normal, il n'y avait plus de TER. Voilà.
On aura la possibilité de poursuivre sur des points précis. Hein. Allez, mademoiselle ou madame.
Bonjour, je m'appelle Carole Alain, je suis conseillère municipale. Moi, je voulais parler d'un nouvel outil, je pense, de mobilité physique et virtuelle qui est le couchsurfing, en fait, qui est un principe où chacun s'inscrit sur un site internet et offre la possibilité d'offrir son canapé un soir ou une semaine pour un déplacement professionnel ou pour un voyage touristique. Et je trouve que c'est un bon outil d'apprentissage de la mobilité et de la rencontre de l'autre. Et je trouve que c'est gratuit, c'est généreux et que ça permet notamment à des... Moi j'ai été au Maroc comme ça et j'ai rencontré des gens qui n'ont pas de mobilité physique mais qui ont cette mobilité virtuelle et à qui ça a permis d'avoir une fenêtre sur leur monde en dehors de leur télé et sur leur canapé. Et je trouve que c'est un chouette principe.
Je relève juste au passage que donc couchsurfing, que la mobilité est bien une langue et elle peut même être une langue anglaise. Hein, voilà.
Cela dit, plus sérieusement, c'est de belles, une illustration, et je parle sous ton contrôle, justement de l'intérêt qu'il y aurait à prospecter les territoires pour voir ce qui se fait. Et c'est précisément ce que tu avais fait, Éric Le Breton, il y a quelques années de ça, en organisant le premier forum à Saint-Nazaire, destiné à faire se rencontrer des acteurs de tous horizons, sociaux, économiques, institutionnels, politiques, qui œuvraient justement, sans le savoir, chacun dans son coin, à la mise en œuvre d'initiatives qui permettent de répondre à des problèmes tels qu'ils se posent dans la Vienne ou sur d'autres territoires. Je vais arrêter de focaliser sur la Vienne parce que c'est le pauvre quand même. Éric.
Non, mais il n'y a rien de particulier à dire. C'est très sympa, le couchsurfing. Alors c'est quand même plutôt, c'est quand même très étudiant. Très étudiant. C'est très international. Donc a priori, bon, il faut sortir des frontières pour le faire, mais c'est vrai que c'est très chouette parce que là on est justement dans une articulation mobilité résidentielle, en tout cas voyage, et puis mobilité virtuelle. Il y a les outils du déplacement virtuel qui sont interconnectés, et donc on est dans ces nouveaux réseaux qui sont les réseaux des ubiquistes, hein, c'est-à-dire de cette proximité des territoires mondiaux, hein, où le gars qui habite à 5000 km, c'est notre voisin quasiment. Ouais.
Monsieur.
Mais bon. Oui, bonsoir. Dominique Durand, directeur d'un centre socioculturel à Poitiers, et je tiens à vous remercier d'avoir noté le travail que font les centres sociaux pour les insulaires. Et que, vous l'avez souligné, la mobilité dans ces quartiers est très compliquée. Alors, vous avez employé le mot « bricoler ». On essaye de ne pas trop bricoler et de donner des réponses le plus sérieusement...